Marc Gurgan, donc est directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école d'économie de Paris, et qu'il pratique les expérimentations de type aléatoire et que c'est notamment à ce titre, je crois, qu'il dirige les évaluations de Sourdin et Cachan.
Merci beaucoup. Bonjour, merci de m'avoir invité et proposé d'expliquer le travail que nous faisons, qui est un travail collectif, d'une part avec une équipe d'étudiants et de chercheurs de l'école d'économie de Paris, mais d'autre part évidemment avec le rectorat de Créteil, avec la DEP et avec, je dois dire, le soutien indéfectible de la DGESCO dans une opération qui, vous allez le voir, est par certains côtés assez ambitieuse et qui nécessite un fort soutien. Alors, peut-être simplement juste un rappel, parce que au fond, le sujet n'a pas été encore abordé de façon très détaillée, mais pour rappeler que l'internat d'excellence, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est une idée assez classique, plus de moyens, mais c'est aussi le régime de l'internat pris sous un angle, je pense, même assez nouveau. C'est un ciblage d'élèves, mais c'est aussi pour chaque élève un changement de son environnement de pair, du fait même de ce ciblage, et ça c'est quelque chose de probablement important. C'est un recrutement des enseignants, et puis c'est un projet pédagogique. Au début, j'avais envie de mettre un point d'interrogation, un projet pédagogique, non pas avec l'idée qu'il n'y en avait pas, mais avec l'idée que il n'était pas tout à fait évident pour moi qu'il y en ait là et qu'il n'y en ait pas ailleurs. Et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée, mais qui probablement sera discutée, qui ne relève pas exactement de ma compétence dans le détail. Donc c'est tout cet ensemble de choses. Et donc pour nous, l'enjeu de l'évaluation qu'on est en train de mener, que je vais vous détailler dans un instant, d'une part, enfin part d'un certain nombre de questions. L'une, je crois, c'est que, à mes yeux, mais à nouveau, c'est je serais heureux si d'être contredit pour qu'on puisse en discuter. Mais à mes yeux, l'impact de l'éducation prioritaire sur les bénéficiaires est quelque chose qui n'est pas très très bien établi, pas très très bien connu, voire discuté. Et on a là un objet que j'ai appelé un petit peu par amusement, une forme exacerbée de l'éducation prioritaire. La liste que j'ai présentée préalablement montre que on va vraiment assez loin dans l'ensemble des choses que l'on met en œuvre qui sont relativement spécifiques. Et donc c'est une occasion finalement de se demander, est-ce que quand on fait presque le maximum de ce qu'on pourrait imaginer dans la direction de l'éducation prioritaire, est-ce qu'on a vraiment des impacts, éventuellement des impacts forts? Je crois que le second sujet très important, c'est celui absolument convenu du poids de l'origine sociale et culturelle sur les réussites scolaires des enfants. Et là, à nouveau, on se met dans une situation un petit peu extrême, d'une coupure extrême. Maximal, je veux dire maximal par rapport à ce que je pense on a imaginé jusqu'ici, et je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin, de l'enfant par rapport à son milieu d'origine. Et est-ce que donc c'est quelque chose, est-ce que c'est une bonne idée, au sens où est-ce que ça produit des effets en termes de réussite qui à la fin sont importants et satisfaisants? Et puis juste pour mettre un petit peu les choses en perspective, ça fait penser, quoique sur un ciblage différent dans chaque cas, ça fait penser à des interventions extrêmement intensives ou intégrées en termes de la multiplicité des dimensions en œuvre, qui ont été menées notamment aux États-Unis, que ce soit la Job Corps plus haut dans l'échelle des âges, ou le Perischool Programme plus bas dans l'échelle des âges, mais qui et pour lesquels il y a des évaluations, notamment des évaluations aléatoires, qui démontrent qu'il y a des impacts de ce type d'intervention, y compris probablement à assez long terme, lorsqu'on est capable de faire un suivi à assez long terme. Et donc une des questions, c'est est-ce que effectivement on est ici capable de reproduire ce genre de réussite relative. Alors, je vais donner aujourd'hui aucun résultat. Je vais parler du dispositif et de la méthode. Et la méthode, elle a pour caractéristique fondamentale de prendre de front la question de la causalité, de chercher à établir une relation causale de quelque chose vers quelque chose d'autre, à partir d'une question simple. Donc, je pense que c'est important de comprendre que on est en train de poser une question précise Et on va répondre à cette question. Cette question, nécessairement, elle est limitée. Elle est loin de répondre à toutes les questions qui sont importantes, intéressantes, etc. Personnellement, je pense que c'est une question importante. Et on se concentre dessus. On essaie d'y répondre le mieux possible. Cette question simple, c'est quel est l'effet, au sens causal, de, alors je dis l'internat d'excellence, c'est un abus de langage, du couple d'internat d'excellence Sourdin-Cachin, vous savez qu'en fait, Cachin, institutionnellement, fait partie de Sourdin, même si c'est une déclinaison assez différente de Sourdin sur le terrain. Donc quel est l'effet, non pas de l'internat d'excellence, mais de ces internats d'excellence-là. Si on veut même être très rigoureux, c'est dans les deux premières années de mise en œuvre, ce qui ne correspond pas forcément au régime d'équilibre de fonctionnement de ces institutions, sur un certain nombre de choses, alors des compétences, des situations, des états d'esprit, un certain nombre de choses qu'on peut mesurer, dont je vais parler tout à l'heure, et donc l'effet sur des élèves. Et pas sur n'importe quels élèves, sur des élèves particuliers, c'est-à-dire ceux correspondant au ciblage aujourd'hui, ou en tout cas tel qu'il a été réalisé dans les deux premières années des internats d'excellence. Donc voilà une question, je pense, à la fois simple et compliquée, simple dans son énoncé, compliquée pour y répondre correctement, et certainement limitée, mais à mes yeux tout à fait importante. Alors, la notion de causalité, c'est une notion qui est compliquée, sur laquelle il y a beaucoup de littérature épistémologique. La manière dont on travaille, c'est en définissant la causalité par la notion de contrefactuel. Il y a une tradition épistémologique largement anglo-saxonne qui associe ces deux notions de causalité et de contrefactuel. Et donc l'idée, le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas passé mais qui aurait pu se passer, je prends un élève qui est à l'internat d'excellence, quelles auraient été ses compétences, etc., tout ce que j'ai envie de mesurer, si ce même élève n'avait pas été à l'internat d'excellence. Voilà un contrefactuel, et c'est la comparaison de ce qui se passe lorsque l'élève est effectivement à l'internat d'excellence, ce que l'on observe, ce qui est un fait, et ce contrefactuel hypothétique, c'est cette différence-là qui définit l'effet causal de l'internat d'excellence. S'il y a une différence entre ce qui se serait passé sans l'internat et ce qui se passe avec, alors il y a un effet causal, en un sens très précisément défini, de l'internat d'excellence, et c'est comme ça que l'on raisonne ici. Alors, comment on fait pour répondre à cette question un petit peu impossible, puisque le même élève ne peut pas être à la fois à l'internat d'excellence et pas à l'internat d'excellence, on procède à un tirage au sort qui permet de constituer deux groupes ex ante à l'instant zéro parfaitement identiques en moyenne et qui forment les contrefactuels l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'élève semblable en moyenne mais qui n'est pas à l'internat d'excellence, ce qui lui arrive représente ce qui serait arrivé à l'élève également semblable en moyenne, mais qui est à l'internat d'excellence, et donc on cherche à construire de cette manière des contrefactuels que l'on va comparer. C'est une façon un petit peu savante, simplement, de dire qu'on va tirer au sort des deux groupes d'élèves qui sont parfaitement comparables au hasard, et qu'on va voir au départ, et qu'on va regarder à la fin s'il y a des différences significatives dans un certain nombre de situations de ces élèves ou d'états de ces élèves, et si c'est le cas, on pourra assigner ces différences à l'internat d'excellence et à aucune autre chose qui serait là préalablement, puisque ces deux groupes sont parfaitement comparables. Alors comment on a procédé dans le détail pour construire ces deux groupes ? On s'est appuyé sur les commissions d'admission aux internats d'excellence qui ont lieu en mai précédant la rentrée. Et au cours de ces commissions, d'une part, on écarte un certain nombre de dossiers hors profil. Excusez-moi pour la coquille, qui n'ont pas lieu du point de vue du rectorat et des inspections d'être recrutés dans les internats. Parmi les dossiers qui restent, la commission identifie un certain nombre de dossiers qu'elle estime absolument prioritaires et qui doivent en tout état de cause intégrer l'internat et qui donc ne sont pas soumis à un tirage au sort. Et parmi les dossiers restants, elle estime que l'on est dans un groupe relativement large et à l'intérieur duquel il n'est pas absolument évident de procéder à des interclassements. Et à l'intérieur de ce groupe-là, par tirage au sort, on définit la liste initiale qui est proposée à l'internat et on définit aléatoirement l'ordre dans la liste d'attente des enfants qui seront contactés pour combler les places en cas de désistement. Et donc, la population expérimentale, celle sur laquelle on travaille, c'est l'ensemble des élèves qui ont participé au tirage au sort, c'est-à-dire notamment que les élèves prioritaires, il n'y a pas de tirage au sort, donc je n'ai pas de contrepartie pour ces élèves dans un échantillon témoin. Je ne peux rien dire absolument sur l'impact de l'internat pour ces élèves-là. Donc c'est essentiellement pour la masse de ces élèves non prioritaires, et sachant que cette priorité n'est pas quelque chose de défini de façon très formalisée, c'est la commission qui a une estimation qui peut évoluer au cours du temps d'ailleurs de cette situation. Alors voilà où on en est. On va travailler sur deux cohortes. Les cohortes qui sont entrées à Sourdin en 2009 et les cohortes qui sont entrées à Sourdin et à Cachan en 2010. Alors, ce sont, d'un point de vue statistique, ce sont des échantillons relativement modestes. Du point de vue du suivi d'enquête, ce sont des échantillons extrêmement gros. Enfin, relativement gros étant donné la difficulté spécifique de l'enquête dans ce cas-là. Ça veut dire que pour avoir des effets statistiques relativement précis, il faut que l'impact de l'internat soit fort, donc clairement facile à distinguer du bruit statistique. Mais d'un autre côté, étant donné l'ampleur de la politique, les ressources qui lui sont allouées, on peut espérer, c'est raisonnable de vouloir détecter des effets relativement forts et considérer que des effets faibles sont de toute façon décevants. Donc voici mes deux populations, test et témoin. Vous voyez, pas totalement équilibré en termes d'effectifs, mais relativement équilibré. C'est sur celle-ci que nous allons travailler. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? Eh bien, on met en œuvre tout un tas de mesures. L'idée étant de mesurer les impacts de l'internat sur un spectre aussi large que possible à l'intérieur de ce qu'il est raisonnable de mesurer dans un dispositif d'enquête qui est coûteux pour tout le monde et notamment pour l'institution scolaire. Mais d'essayer d'avoir quelque chose d'assez large pour arriver à décrire de façon assez complète où est-ce que l'internat change ou sur quoi l'internat change véritablement des choses, sur quoi est-ce que l'internat a éventuellement moins d'impact, en tout cas dans le moyen terme. Alors ce que je vous décris maintenant, c'est donc l'ensemble des choses, des types de choses, hein, je rentre pas dans les détails, que l'on cherche à mesurer. Alors d'abord un petit peu en amont, si vous voulez, c'est pas vraiment des effets de l'internat, c'est plutôt caractériser de façon systématique ce qui se passe à l'internat et ce qui différencie l'internat des autres établissements. Alors, par exemple, on peut chercher à caractériser les enseignants, le type d'enseignants, leur ancienneté, etc., lorsqu'ils sont dans les internats d'excellence. Et puis ici, mon groupe témoin, c'est pas le reste de la population des internats. C'est très précisément les enseignants qui enseignent dans les établissements, des élèves qui appartiennent à mon groupe témoin, c'est-à-dire mes 172 élèves, qui, n'étant pas entrés à l'internat, se trouvent dispersés dans un certain nombre d'établissements en fonction de leur situation personnelle, qui sont toutes différentes. On va chercher à connaître la dotation horaire, les budgets des établissements, etc., essayer d'approcher au mieux que possible les différences de ressources entre les deux types d'institutions. On a envie de caractériser la nature des pairs, c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, des élèves des internats par rapport aux autres élèves. Donc qu'est-ce que je fais ? Les pairs des élèves des internats, je les connais un peu par construction, parce que c'est l'ensemble des élèves des internats que je vais observer. Mais pour un élève témoin qui se trouve dans le collège ou dans le lycée X ou Y, eh bien, j'ai envie de savoir à quoi ressemblent les élèves avec lesquels ils se trouvent. Et dans quelle mesure est-ce que l'environnement d'élèves d'un élève interne est différent de l'environnement d'élève d'un élève qui n'est pas interne. Donc je vais interroger un échantillon de pairs appartenant aux classes des élèves témoins. On va tirer au sort quelques pairs pour chaque élève témoin de manière à être capable de situer les élèves de cette manière-là. On va essayer de mesurer le rythme de travail des élèves, leur rythme de travail en semaine mais également le week-end lorsqu'ils sont, c'est le plus souvent le cas, chez eux. Leurs loisirs, les sorties qu'ils font ou qu'ils ne font pas, leur goût pour certaines formes de culture, de sport et ainsi de suite. Et puis on va chercher à mesurer les relations à la fois entre les élèves, donc les enjeux de violence notamment, et les relations avec les équipes pédagogiques, que ce soit les enseignants ou les autres personnels qui assurent de l'encadrement, puisque on a peut-être l'idée que cette relation, notamment pour des élèves qui habitent sur place et qui vivent au quotidien avec ce personnel, ces relations peuvent être extrêmement différentes. Donc on veut essayer de caractériser tout ça de façon descriptive. Et puis il y a des mesures d'outcome, donc les résultats sur lesquels on se demande si l'internat a effectivement un impact causal. Alors chez les enfants, donc je vais revenir sur le protocole d'interrogation dans un instant. Donc il y a d'une part des compétences, on se limite aux maths et aux français parce que pas parce que c'est inintéressant d'aller plus loin, mais parce que on est obligé de faire des choix. L'ADEP a conçu spécifiquement pour ce projet des mesures de compétences dans ces deux disciplines qui sont mises en œuvre. On va interroger les enfants sur leur projet d'orientation, leur projet professionnel, et on leur fait passer aussi des tests qui sont issus de la littérature psychologique sur pour comprendre la nature de leur motivation scolaire. Donc est-ce que être dans un internat, ça fait évoluer le sens que je donne au fait d'être à l'école, et puis sur la confiance en soi ou l'estime de soi. De manière à savoir si on a affermi cette confiance ou pas. Voilà les catégories d'interrogation qu'on porte sur les enfants. On interroge également les familles. On va les interroger sur leur motivation initiale pour l'internat d'excellence. On va les interroger sur la connaissance spontanée qu'ils ont des résultats de leur enfant à l'internat, qu'on va pouvoir comparer à, donc on leur demande quelles récompenses ils ont eues, quelles moyennes ils ont eues dans un certain nombre de disciplines, etc., comme ça, du tac au tac, et comme on a, nous, les bulletins scolaires, etc., on va pouvoir comparer. Est-ce que des parents des enfants sur l'internat sont plus attentifs ou moins attentifs à la scolarité de leurs enfants? On va les interroger sur leur propre projet pour l'enfant, et puis on va les interroger sur le reste de la fratrie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une externalité positive pour le reste de la fratrie ou pas particulièrement. Donc on les interroge sur les résultats scolaires des autres enfants de la fratrie, on les interroge sur les conditions de logement. Il est évident que la densité dans le logement est modifiée par le départ d'un enfant vers l'internat d'excellence. Et puis on les interroge sur les caractéristiques de tous les adultes du foyer, et notamment leur activité professionnelle, ce genre de choses. Donc c'est une interrogation assez complète et relativement lourde. Alors, comment on fait pour mettre en œuvre cet ensemble de mesures? C'est là que les choses sont assez difficiles et demandent beaucoup d'énergie et de volonté. Première chose qu'on doit faire, c'est de localiser tous les élèves témoins. Les élèves testent, les élèves, ils sont dans les internats, c'est pas très très difficile de les attraper. Encore qu'il y a des enfants qui évidemment quittent l'internat. Mais essentiellement, les élèves, les presque 200 élèves témoins, ils sont répartis dans 146 établissements différents aujourd'hui. Et donc, on va les chercher un à un. Essentiellement avec les fichiers du rectorat de Créteil, mais également avec l'aide de la DGESCO. Et on fait passer aux enfants, en ligne, sur ordinateur, en deux fois, l'ensemble des questionnaires et interrogations que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc, pour les internats d'excellence, on fait passer à tous les élèves de l'internat. Et pour les élèves témoins, on le fait passer à l'élève et à 5 élèves de sa classe que l'on a tirés au sort. Et ça, c'est à nouveau pour caractériser l'environnement de pair dont bénéficient les élèves de l'internat d'excellence par rapport aux autres. Et c'est vraiment, pour nous, il y a un enjeu très très fort à avoir tous les enfants dans notre enquête. Donc éventuellement, des enfants déscolarisés, on contacte les parents et on leur demande, et ça, on l'a fait plusieurs fois, on va le refaire cette année, parce que les enfants passent les tests en ligne chez eux s'ils sont déscolarisés. Donc on va vraiment jusqu'au bout de la recherche. Et la raison est simplement que quand on fait un tirage au sort, c'est pour avoir des échantillons qui sont parfaitement comparables en moyenne au départ. Si vous interrogez tous les enfants de l'internat d'excellence, mais que vous n'interrogez que la moitié des autres enfants, il n'y a aucune raison que cette moitié soit représentative de l'ensemble des enfants témoins. Parce que il y a de bonnes raisons pour lesquelles des enfants sont difficiles à contacter, et ces raisons ne sont pas indépendantes de leur performance scolaire prise dans un sens très large. Donc c'est extrêmement important, pour tirer tout le profit de l'assignation aléatoire initiale, d'aller chercher tout le monde, ou presque tout le monde, à la fois parmi les échantillons tests et témoins. Et pour les parents, on fait une enquête téléphonique qui est confiée à un prestataire, et vous avez vu le protocole, enfin l'ensemble des mesures qu'on cherche à avoir. C'est une enquête téléphonique qui est assez longue et assez compliquée, puisqu'on les interroge sur l'enfant, sur tous les enfants de la fratrie et sur tous les adultes du foyer. Alors, La chose dont aujourd'hui, et le seul résultat que je peux vous donner aujourd'hui sur tout ça, et dont nous sommes assez satisfaits, c'est que on arrive, malgré la difficulté de l'exercice, à interroger 93% des enfants en allant les chercher un à un dans tous les établissements où ils sont. Sur les pères, parce que l'enjeu des pères est moins important pour nous, on est moins exigeant, c'est plus compliqué d'insister auprès des établissements pour qu'ils fassent venir des élèves, des pères, on a quand même 80%, et 82% de réponses sur les parents, ce qui, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui sont familiers des enquêtes téléphoniques, c'est un taux de réponse extrêmement élevé. Le standard est plutôt entre 50 et 60% lorsque les gens sont très motivés. Voilà. Et nous sommes, à cet instant précis, en train de mettre en œuvre exactement ce même dispositif pour la deuxième année de suivi. Et donc pour finir, quel est le calendrier ? Donc l'idée ici, c'est de dire on a ces deux cohortes qui sont aujourd'hui recrutées, repérées, identifiées, et chacune de ces deux cohortes, on veut les suivre pendant 2 ans, parce que il nous semble assez évident, et c'est le sentiment aussi de notamment Jean-François Bourdon et les gens qui font fonctionner les internats, que pour produire vraiment des effets en profondeur sur les jeunes, il faut un temps relativement long, peut-être que 2 ans d'ailleurs, et un temps trop court encore pour porter un diagnostic. Mais on veut éviter de porter un diagnostic à très très court terme, au bout d'un an. On sera capable de présenter ce diagnostic au bout d'un an, mais on n'a pas envie de le présenter tout de suite, parce que c'est ce qui va être regardé immédiatement. Et il nous semble plus intéressant d'amener le diagnostic à 2 ans, qui a beaucoup plus de sens, et puis de rajouter celui à 1 an à ce moment-là. Donc ça nous mène, parce que la deuxième cohorte, en tant que la deuxième cohorte soit interrogée une deuxième année, ça nous mène exactement l'année prochaine pour les interrogations, ce qui nous permettra d'avoir des résultats à l'automne 2012. Je pense qu'on sera capable d'ici là, peut-être à cette rentrée, en revanche, de faire le travail de caractérisation des élèves qui sont dans les internats par rapport à leurs pairs, ce qui n'est pas un outcome à proprement parler, mais un travail descriptif. Je pense que j'ai fini. Merci.